Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelqu'un qui est très important pour moi en tant que gros fan de musique. Cette personne-là est responsable pour une énorme liste de classiques tels que Walk This Way de Run-DMC et Aerosmith, No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys, 99 Problems de Jay-Z et même Father Stretch My Hands Part 1 de Kanye West. La liste peut continuer pendant des heures. Ce que je trouve fascinant chez cette personne, c'est son altruisme qui, vous allez voir, est énorme. Donc, qui est cette personne responsable pour d'aussi grandes et importantes chansons? Cette personne est le seul et très unique Rick Rubin. Donc, bienvenue à « C'est qui ça déjà? » le balado où je mets la lumière sur une personne qui, selon moi, Alexis Ouellette, ne reçoit pas assez de reconnaissance dans la communauté de mon cégep. J'ai fait cette observation après avoir demandé à des élèves du cégep de l'Outaouais s'ils savaient qui était Rick Rubin.
Non.
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 Pas du tout.
Absolument pas.
Non.
Non.
Seulement deux personnes dans l'entièreté des personnes interviewées savaient qui il était.
Ouais. C'est un producteur de musique, il me semble, qui a aucune expérience, scolaire en musique. Il a juste fait beaucoup de travail pour beaucoup d'artistes différents, notamment Kanye. Puis il réduit beaucoup les... pas la charge musicale, là, mais comme souvent, il y a du monde qui apporte beaucoup de matériel, puis lui, il fait juste réduire, jusqu'à temps que ça soit un produit concis.
C'est pas le dude qui fait de la musique?
Oui.
OK, avec la fucking grosse barbe.
Ouais.
Cet homme est incroyable, oui. Honnêtement. Mais c'est parce que c'est tellement intéressant que le travail des producers est comme sous-évalué. Ils font beaucoup d'argent, mais personne les connaît vraiment, genre. Fait que c'est ça, Rick Rubin. Rick Rubin, c'est le GOAT. Puis les gens dans l'industrie le connaissent, mais pas les gens qui consomment l'or. C'est spécial, quand même.
Dans ce premier épisode, je souhaite mettre en valeur l'entièreté du gourou musical qui est Rick Rubin, qui aussi, selon moi, a une des plus belles philosophies qui s'appliquent non seulement dans le monde de la musique, mais dans toutes les sphères créatives. Frederick J. Rubin est né le 10 mars 1963 à Long Island, New York. Il a grandi à Lido Beach, Long Island, où il a fréquenté The Lawrence High School. Ses parents étaient tous deux originaires de New York, donc la culture de cette ville a toujours été quelque chose d'important pour Rick. Son père, Michael, était vendeur dans une boutique de chaussures, tandis que Linda, sa mère, était femme au foyer. En grandissant, Rick a toujours été fasciné par la musique. Il avait une attirance particulière pour le hip-hop et le punk rock, qui étaient tous deux des genres émergents à l'époque. À l'adolescence, il jouait déjà de la guitare et écrivait ses propres chansons. Puis, il a formé un groupe appelé Hose avec quelques amis de son école. Après son temps au Lawrence High School, Rick a fréquenté l'Université de New York où il étudiait le cinéma. Par contre, il a passé la plupart de son temps en dehors de ses cours à travailler sur la musique. Il a même formé un autre groupe punk appelé The Pricks. Rick a réalisé assez vite que l'école n'était pas pour lui. Il décide donc d'abandonner ses études universitaires pour se concentrer sur ce qu'il aime le plus dans le monde, la musique. Il commence donc à produire de la musique d'une manière complètement différente des producteurs de musique de l'époque. Il raconte qu'il fréquentait un club à New York qui s'appelait The Grill. Ce club jouait de la musique plus dance/disco. Cependant, une soirée par semaine, le club faisait une soirée hip-hop. Rick, fan de ce genre de musique, y allait donc chaque soir. Mais ils réalisent quelque chose lorsqu'ils écoutaient les mêmes chansons sur vinyle. Ils s'aperçoivent que les chansons sont différentes, comme si les chansons étaient plutôt du R&B que du hip-hop. Ils n'avaient pas ce sentiment lorsqu'ils les écoutaient au club, puisque durant les spectacles, l'instrumental était joué en direct avec un DJ qui spinait, mais ce n'était pas le cas dans les vinyles. Ils commencent donc à produire des chansons avec des rappeurs de New York, tels que Tyler Rock et Jazzy Jazz, ayant pour but de reproduire l'atmosphère des clubs. Ce but fut réussi, puisque quelques mois après, lui et son ami Russell Simmons créent ce qui va devenir le plus gros label de rap. Def Jam's Recordings a été créé en 1983 par Russell Simmons et Rick Rubin. À l'époque, Russell était promoteur et manager d'artistes hip-hop et Rick était un producteur de musique qui s'était déjà fait un nom dans les scènes punk et rock et hip-hop. L'idée de Def Jam est née lorsque Russell a vu le potentiel de la musique hip-hop et a voulu créer une maison de disques qui mettrait en valeur le genre. Il a approché Rick, qui était déjà fan de hip-hop, et a travaillé avec des artistes comme Run-DMC pour l'aider à lancer le label. Les deux avaient des parcours et des personnalités très différentes, mais ils partageaient une passion commune pour la musique et un désir de créer quelque chose de nouveau et de révolutionnaire. Russell était très extraverti et charismatique, tandis que Rick était introverti et expérimental. Ensemble, ils étaient la recette parfaite pour donner vie à leur vision. Le nom Def Jam a été inspiré par l'idée de se rebeller contre l'état actuel du monde, de la musique, qui ne ferait pas la place aux sous-genres musicaux tels que le punk rock et le hip-hop. Une des premières sorties du label était un single du jeune rappeur nommé LL Cool J, intitulé « I Need a Beat » en 1985. La chanson a été un énorme succès et a contribué à faire de Def Jam sa marque dans l'industrie du hip-hop. Au cours des prochaines années, Def Jam a signé et produit des disques pour certains des artistes hip-hop les plus influents de l'époque, dont Run-DMC, les Beastie Boys, Public Enemy et même EPMD. Selon le RIAA, ce qui signifie que plus que 5 millions d'exemplaires de l'album ont été vendus. Puis, le second album du même groupe en 1992 a permis au label d'avoir son premier album numéro 1 dans le Billboard Hot 100. D'autres sorties notables du label sont Mac Daddy de Sir Mix-a-Lot, The Southern Harmony and Musical Companion de Black Rose, Rain in the Blood de Slayer, ainsi que American Recordings de Johnny Cash. Le résultat de la collaboration entre Rubin et Johnny Cash est ce qui a mis American Recordings sur la carte. En 1994, Rubin a approché Cash avec l'idée d'enregistrer un album de version acoustique épurée des chansons country classiques. L'album qui en a résulté, American Recordings, a été un succès critique et commercial, gagnant à Cash une nouvelle génération de fans et un Grammy Award du meilleur album folk contemporain. Rubin et Cash ont continué à travailler ensemble sur plusieurs autres albums, dont Unchained, qui a remporté le Grammy Award du meilleur album country en 1997. Le travail de production de Rubin sur ses albums ont contribué à rajeunir la carrière de Cash et à cimenter sa réputation de légende de la musique. En plus de son travail avec Cash, Rubin a produit des albums pour d'autres artistes, notamment les Red Hot Chili Peppers, System of a Down et Neil Diamond. Le style de production de Rubin mettait l'accent sur la simplicité et l'authenticité, enregistrant souvent des performances en direct avec un minimum d'overdubs. Cette technique d'overdubs consiste à ajouter des sons à un morceau déjà enregistré, donc Rubin essayait de faire cela le moins possible. Après son temps à American Recordings, Rubin a été nommé co-directeur à Columbia Records en 2007. De 2007 à 2012, Rubin a été nominé pour 10 Grammys et en a remporté 7 dans nombreuses catégories, telles que Records of the Year en 2007 pour la chanson Not Ready to Make Nice des Dixie Chicks, Album of the Year dans la même année pour Future Sex Love Sounds de Justin Timberlake. Il a aussi gagné Producer of the Year en 2007 ainsi qu'en 2009, puis il a remporté un autre Grammy pour l'album de l'année avec 21 d'Adele. La philosophie créative de Rick Rubin peut se résumer par le fait
d'enlever tous les éléments non essentiels pour permettre l'essence de la musique de briller à travers le résultat. Il croit que la meilleure musique vient d'une place de vérité et de vulnérabilité. Il croit que le rôle du producteur est de créer un environnement qui permet aux artistes de s'exprimer de manière honnête. Rubin est aussi connu pour sa concentration dans le pouvoir de la collaboration. Il croit que le meilleur résultat est souvent le résultat de visions partagées entre l'artiste et le producteur, et que le travail du producteur est aussi de faciliter la collaboration et de faire ressortir le mieux de l'artiste. De manière générale, la philosophie créative de Rick Rubin est caractérisée par un profond respect pour la musique et l'artiste, et un engagement dans la simplicité et dans l'authenticité, ainsi qu'une approche collaborative qui cherche à faire sortir le meilleur de tout le monde qui est impliqué dans le projet créatif. Pour conclure cet épisode, j'aimerais parler de pourquoi Rick Rubin est aussi important pour moi. Plusieurs ne le savent pas, mais je produis de la musique. Rick Rubin a donc été une de mes plus grandes inspirations, car j'aimais son style de vie ainsi que sa philosophie. J'étais inspiré par son côté anonyme, qui me semblait très intéressant comme personnage, jusqu'à temps que je découvre que ce n'est pas ce personnage, c'est juste lui. Afin de chercher les informations pour ce balado, j'ai écouté The Joe Rogan Experience, l'épisode avec Rick Rubin, puis j'ai pu pouvoir apprendre beaucoup d'informations sur Rick Rubin ainsi que sa vie personnelle. Je trouve que son mode de vie, ainsi que sa philosophie non seulement créative, mais à l'extérieur de la vie, et sa recherche du bonheur est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec moi. Son but est de vivre consciemment le moment présent le plus possible. Je trouve que beaucoup de personnes devraient appliquer cette philosophie dans la société aujourd'hui, car le moment présent est la chose la plus importante au monde. J'ai été inspiré à faire de la musique après avoir vu une conversation publiée sur YouTube en 2016 entre lui et Kendrick Lamar. Dans cette conversation-là, j'ai pu voir l'altruisme de Rick Rubin. Ce qui commençait avec une conversation entre deux personnes a rapidement tourné en quasiment une entrevue entre Kendrick Lamar et Rick Rubin. Son altruisme était tellement grand que la conversation entre les deux a juste fini par la curiosité intellectuelle de Rick qui prend le dessus et qui souhaitait en savoir plus sur Kendrick Lamar. J'ai trouvé cela très inspirant, car c'était juste un moment de pure passion pour la musique que Rick est en train de montrer sans faire par exprès. Sur ce, merci d'avoir écouté mon balado. C'était Alexis Ouellette pour C'est qui c'est déjà.